franceinter.fr.
Il est 8h31. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, un mercredi sans Charlie.
Oui, c'est le second. Il y en aura d'autres, quelques semaines encore avant la sortie du deuxième numéro après l'attentat. Certes, il y a celui aux 7 millions d'exemplaires en attendant. Mais voilà, cela fait deux mercredis. Deux mercredis et même trois depuis le drame. Et un sondage pour essayer de mesurer ce qu'il a changé dans les mentalités, les opinions. Sondage Ipsos Steria pour Le Monde sur le site internet pour l'instant. Certainement en kiosque cet après-midi. Enquête réalisée les 21 et 22 janvier. Premier enseignement, entre partisans de la sécurité et défenseurs des libertés publiques après les attaques, eh bien les premiers, les sécuritaires, l'emportent. Êtes-vous favorable à de nouvelles mesures, y compris si elles empiètent sur les libertés individuelles? Oui, pour des écoutes téléphoniques sans l'accord d'un magistrat, 61%. Oui, largement, pour des perquisitions dans les mêmes conditions. Oui, aussi à des interrogatoires sans avocat. C'est aussi une opinion plus va-t-en-guerre que décrit ce sondage. 50% estiment que la France doit augmenter son engagement au Mali, au Sahel, en Irak, 40 qu'elle doit le maintenir à son niveau actuel, plus favorable encore à une intervention plus directe en Syrie. Les caricatures, elles choquent ou non, mais les personnes interrogées sont partagées, mais elles sont pour leur publication. Et leur regard sur l'islam est un peu plus bienveillant que les années précédentes. Certes, une petite majorité, 51%, considère que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la société française. Mais le chiffre était de 63% il y a un an et de 74% il y a deux ans. Enfin, une écrasante majorité se sent prête à se mobiliser massivement quand les valeurs du pays sont menacées.
Les chiffres et les mots, ceux du directeur de l'hypercachère, Patrice Walid.
C'est dans Le Parisien, il revient pour la première fois sur l'attentat dans son magasin. Comment il a réussi à se sauver après l'entrée d'Amedi Coulibaly, son bras blessé, l'application sur son téléphone laissée aux policiers qui donnait accès aux caméras de surveillance du magasin. Ce n'est que le dimanche à l'hôpital qu'il a appris l'ampleur du drame, la prise d'otages, les morts, le sentiment de culpabilité, lui s'en est sorti. Et cet homme marié, père de famille, ajoute « Je ne veux plus retourner travailler à hypercachère, les caissières non plus. Mon patron veut rouvrir pour montrer aux terroristes qu'ils ne peuvent pas gagner. Je pense qu'on va faire nos valises pour s'installer en Israël. Je ne suis pas de la chair à canon. » Les stigmates et les débats ouverts depuis trois semaines sur la capacité notamment de l'école à transmettre les grandes valeurs de la République. Une pièce au débat dans Télérama, interview de l'historien Christophe Prochasson, spécialiste de l'histoire culturelle et politique et désormais recteur de l'Académie de Caen. Ce qu'il faut changer selon lui à l'école, c'est la pédagogie. L'enseignement des valeurs républicaines reste trop abstrait, vu comme une série de grands mots qui ne disent rien à beaucoup d'élèves. En France, nous continuons de privilégier un enseignement du haut vers le bas, comme s'il fallait remplir un verre à partir d'un flacon. Il faut être moins didactique, plus vivant, plus concret, plus dans l'échange. Certains professeurs d'ailleurs ne m'ont pas attendu. Le bon élève est encore trop souvent celui qui sait. Et si c'était celui qui est aussi capable de défendre ses idées, de résister à son environnement quand celui-ci tient un discours inacceptable. Ce qui demeure aussi, c'est un climat plus tendu pour les artistes. Quelques films déprogrammés, on en a parlé ici. Et cette œuvre retirée de l'exposition Fémina à Clichy-la-Garenne s'est relevée dans Libération. L'expo Fémina donne une place centrale aux femmes dans la création artistique. Et dans ce cadre, Zulkia Boitbella devait présenter une œuvre qui montrait 28 tapis de prière sur lesquels étaient posés 28 escarpins. Façon d'interroger la place de la femme entre sacré et profane. Œuvre retirée après un message alarmiste de la Fédération des associations musulmanes de la ville.
Et un mercredi de plus au chômage.
Pour 3 496 400 personnes en décembre dernier, presque 3,5 millions. Retour de l'implacable réalité économique sur l'agenda du gouvernement. La France n'a jamais compté autant de chômeurs, titre Les Échos. 2014, nouvelle année noire pour le chômage, en manchette du Figaro. Et comme chaque mois, revient le débat sur le thème « A-t-on vraiment tout essayé ?» Non, répondent de manière radicalement différente Les Échos et Mediapart. Pas de vraie réforme du code et du marché du travail pour le premier. Il faut s'inspirer de Grèce et complètement changer de politique pour le second. Au-delà des analyses, il y a le constat de ce poison lent du chômage de masse qui se diffuse dans la société. Quelques lignes à la une de l'opinion sur ces personnes loin, très loin, de trouver un emploi en proie au doute et au découragement. C'est un jeune sorti du système scolaire sans diplôme. C'est une jeune femme de retour sur le marché du travail après une maladie. Un cadre sup licencié économique qui réalise qu'il est largué par les nouvelles technologies. un fils d'immigré qui sait que son CV risque de partir à la poubelle, ou encore une ancienne ouvrière à la campagne éloignée des offres d'emploi sur Internet.
Quoi d'autre dans la presse, Bruno ?
La loi Macron et ses centaines d'articles et amendements, toujours difficiles à digérer sur les sites de L'Express et de Télérama. L'inquiétude des journalistes à propos d'un amendement destiné à protéger le secret des affaires de l'espionnage industriel. Il est rédigé en termes flous et il risque de compliquer encore toute enquête dans les milieux économiques, risque d'étouffer de nouvelles affaires de l'amiante, du Mediator ou du Crédit Lyonnais, ou même les détails d'un plan social. Sur le site de Challenge, la vie difficile d'ex-Nicolas Sarkozy, reçu par Angela Merkel lundi, certes, mais dans quelles conditions ? Nicolas Domnac raconte sur le site de Challenge. Au siège de la CDU, d'abord, le parti de Madame Merkel passe à la chancellerie. Entrée par le parking du sous-sol, pied de grue avant l'arrivée de la chancelière. Pas de caméra, pas de photo. Tout juste s'il n'a pas été reçu comme un livreur de pizza, commente Domnac. À la rubrique « Ils n'ont pas honte de l'humanité », le maire Front National de Hénin-Beaumont, Steve Briouat, sacré élu local de l'année par le Trombinoscope, qui est un annuaire des acteurs de la vie politique. On en parlait à 7h30. Les prix sont décernés par un jury de 7 journalistes présidés par Arlette Chabot. Steve Briouat, adoubé par la médiocratie, écrit l'UMA.
Et tout à l'heure, Laurent Geoffrin a fait savoir qu'il n'avait pas participé aux délibérations du jury et qu'il aurait voté contre s'il avait délibéré, parce qu'il est membre du jury du Trombinoscope.
Et puis le numéro 1000 des Inrecuptibles, pour marquer le coup, il est rédigé sur le mode « Je me souviens ». 20 ans de coulisses, de reportages et d'interviews dans un hebdomadaire culturel, rock et branché, raconté sur ce mode. Et comme les journalistes des Inrock savent écrire, cela donne des petits morceaux de romans. Je vous en livre trois. Jean-Marc Lalanne, je me souviens de Catherine Deneuve, allumant une cigarette au bar d'un hôtel, puis l'éteignant dès qu'un serveur embarrassé lui a rappelé qu'il était interdit de fumer. On peut toujours essayer, conclut-elle dans un demi-sourire. Pierre Siankowski, je me souviens du jour où Lassa, chanteuse disparue depuis, m'a offert chez elle à Montréal un œil en plastique qui vous regarde tout le temps. Il me regarde encore. Nelly Caprielian, je me souviens de Bret Easton Ellis, l'écrivain américain allongé sur le lit d'une suite de l'hôtel des Beaux-Arts où Oscar Wilde mourut un siècle plus tôt. Il faisait la gueule en costume Paul Smith et Ray-Ban Aviator noir. À demain.